Ce matin, je vais vous lire dans un premier temps deux passages dont je parlerai après. Et je ne vais pas lire évidemment forcément tous les passages en entier, tous les versets, mais je vous invite à les lire chez vous. C'est toujours bien de connaître aussi le contexte et pour un peu plus de cohérence, d'avoir aussi ce qui se passe avant et après. Et pour avoir encore plus de cohérence, je vous invite à lire la Bible en entier de toute façon. C'est plus simple. Mais ce matin, je vais me contenter de quelques extraits. Dans Nombre, au chapitre 20, il est écrit « Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel ? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail ?» Je lis un peu plus loin. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher. Et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec sa verge, il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but, et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Meriba où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. C'est un passage qui déjà, quand j'étais plus jeune, m'a posé un peu souci, mais je vais en lire un autre, qui en apparence peut n'avoir rien à voir, qui se trouve dans 2 Rois 13. Élisée lui dit « Prends un arc et des flèches », et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël « Bande l'arc avec ta main ». Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi et il dit « Ouvre la fenêtre à l'Orient ». Et il l'ouvrit. Élisée dit « Tire », et il tira. Élisée dit « C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Afek jusqu'à leur extermination. » Élisée dit encore « Prends les flèches », et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, « Frappe contre terre !» Et il frappa 3 fois, et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, « Il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. » Quel rapport entre ces deux passages? Il y en a un qui tape 2 fois et on le punit pour ça. Mais il y en a un qui ne tape que 3 fois et on le punit pour ça. Et on pourrait se dire, quelle logique y a-t-il dans la parole de Dieu? À quel moment on peut lire ces deux passages et se dire l'un frappe et on lui reproche, l'autre ne frappe pas assez, on lui reproche aussi. Au final, quoi qu'on fasse, ça sert pas à grand-chose. Et le problème, c'est que c'est ce que fait le monde aujourd'hui et ce qu'on fait nous aussi parfois. C'est qu'on essaye parfois d'expliquer les choses de Dieu avec une logique humaine. Et quand on parle à des non-chrétiens, à des non-croyants, et qu'on commence à essayer d'expliquer les choses avec, on va dire, un esprit rationnel, cartésien, à dire que, mais si, scientifiquement, la mer qui s'ouvre devant le peuple, c'est possible, il y a des hauts fonds par endroit, des courants, etc. Et on commence à être dans le rationnel, et on commence à vouloir expliquer et défendre la logique de Dieu avec une logique humaine. Ou bien quand on lit la parole, et je pense que, alors ça m'arrive à moi, et je pense que ça arrive à tous, parfois on ne comprend pas certaines choses, ou parfois elles nous semblent illogiques. On a l'impression que c'est plus le même Dieu, que dans ce passage-là, il est différent. On a l'impression, dans certains passages, qu'on en sort avec une certaine gêne, une incompréhension. Et on se dit, pourquoi ? Pourquoi Dieu a-t-il agi ainsi ? Mais la logique humaine est loin de la logique divine. Et autant un enfant peut ne pas comprendre parfois la décision de ses parents parce qu'il n'a pas toute connaissance de la situation complète, il n'a pas la compréhension de tous les détails, et donc quand ses parents lui disent « non, on ne va pas faire ci ou on ne va pas faire cela », lui, tout ce qu'il voit, c'est le nom qu'il a entendu. De la même façon, on est comme des enfants parfois face à Dieu, et on ne cherche pas à comprendre sa logique, on se retrouve juste confronté à un nom qui nous déplaît. Dans Ésaïe, il est écrit que « mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Aussi, quand on lit la Bible, on peut la lire un peu comme je fais en cherchant un petit peu les difficultés et les points qui peuvent nous troubler et dire, ben voilà, c'est pas logique, dans tel passage faut faire ça, dans tel autre passage faut faire son contraire. Comment croire et suivre un Dieu qui dit une chose et son contraire? De la même façon, pour notre monde, le message de Dieu n'a aucune logique. Et quand on entend des gens s'exprimer, ils vont dire « Mais alors, pourquoi ? Pourquoi, si Dieu existe, il y a des guerres, des famines ? On l'a entendu, ce discours-là. Pourquoi il a permis que telle personne décède alors qu'elle était bonne, alors que telle autre, qui était bien mauvaise, est toujours là ? Pourquoi les personnes qui sont les plus élevées sur cette terre, au final, ce sont ceux qui sont le plus loin de Dieu ? Mais si on lit dans 1 Corinthiens, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. La prédication de la croix, n'essayons pas de la rendre logique aux yeux des hommes. C'est une folie. Et ne cherchons pas à expliquer à ces hommes pourquoi Dieu laisse se produire toutes ces choses, alors qu'au final, c'est peut-être que ce n'est pas Dieu qui provoque toutes ces choses. Qu'est-ce qu'on pourrait penser d'un homme qui ne se brosse jamais les dents, qui mange des sucreries tout le temps, et qui va dire à qui veut l'entendre « Mon dentiste est nul, j'ai des caries en permanence. » Que penser de quelqu'un qui, en hiver, s'habille en mini-short et débardeur, et qui se plaint tout le temps qu'il tombe malade alors qu'il a un bon médecin pourtant. On a des hommes et des femmes sur cette terre qui, avec leur logique et leurs yeux humains, pensent Dieu comme un être humain. Et de fait, ils ne le comprennent pas. Et ils ne comprennent pas sa logique parce qu'ils le recherchent avec leur logique à eux. La Bible peut nous paraître difficile. Même à nous qui l'avons lu déjà un certain nombre de fois, on peut ne pas comprendre la logique de Dieu dans beaucoup de passages. Parce qu'on essaie souvent de la comprendre avec des regards humains. La croix, si on la regarde avec des regards humains, c'est quelque chose de fou et d'aberrant. Les musulmans, justement, ne pensent pas que Jésus est fils de Dieu, parce que s'il était fils de Dieu, il ne serait certainement pas mort de cette façon-là. Il ne serait certainement pas né de cette façon-là. Si Jésus était fils de Dieu, il serait venu avec sa gloire, comme un roi. Tous se seraient prosternés devant lui et personne n'aurait pu lever la main sur lui. Voilà la logique qu'ont les musulmans et c'est pour ça que pour eux c'est un blasphème de dire que Jésus est Dieu, parce qu'ils ne peuvent pas considérer que leur Dieu ait pu être mis à mort de cette façon-là, de cette façon aussi infâme et sale. Tout comme on a d'autres passages et d'autres personnes qui vont nous les reprocher en disant « Mais ça n'est pas logique. » Ou bien, si on lit l'Ancien Testament, c'est raciste l'Ancien Testament. Il n'y a que le peuple hébreu qui est sauvé et les autres. Et ces personnes-là n'ont pas lu l'histoire de Rahab, par exemple, et de tant d'autres qui se sont ajoutés au peuple simplement parce qu'ils ont eu la foi. Moïse est puni pour avoir frappé deux fois de trop. Et Joas, lui, est réprimandé pour ne pas avoir frappé assez. Il n'a frappé que 3 fois. Comment comprendre ces deux passages? Et comment comprendre la logique de Dieu? Dans un premier temps, je vais m'attarder sur le passage qui concerne Moïse, puis celui qui concerne Joas, pour répondre à cette question. Dans le passage qui concerne Moïse, à votre avis, qui est-ce qui est le plus miraculeux ? Parler à un rocher et le voir donner de l'eau ? Ou frapper avec force un rocher jusqu'à le fracasser pour qu'il libère une source d'eau ? Quel est le message que Dieu voulait passer à son peuple ? Que Moïse est un bon sourcier, comme on les appelle, ces gens qui ont ce talent pour dénicher de l'eau ? Que Moïse a eu un coup de chance en frappant le bon rocher et puis il y avait de l'eau qui était coincée derrière ? Dieu a nourri ce peuple en faisant pleuvoir sur eux du pain, en leur amenant des oiseaux quand ils ont voulu de la viande. Et Dieu a dit à Moïse, « Parle au rocher. » Et là, le miracle aurait été différent. Si Moïse, devant le peuple, avait dit simplement au rocher, « Donne-nous de l'eau », et le rocher se serait mis à donner de l'eau, certainement beaucoup plus, peut-être, dans le peuple, aurait cru à la puissance de Dieu et au fait que cet exaucement venait bien de Dieu et non de l'astuce de Moïse qui a réussi à leur trouver de l'eau. Mais est-ce logique de parler à un rocher ? Si demain je vous mets un caillou et je vous dis « cassez-le », qu'est-ce que vous allez faire ? Qui va s'asseoir à côté et va dire « écoute, s'il te plaît, ce serait bien que tu te casses ». Qu'est-ce qu'on va faire ? On va tous essayer de trouver un objet, un outil, quelque chose pour le frapper. On va le jeter d'une certaine hauteur. Voilà la logique humaine. Mais la logique de Dieu, c'est pas la même. Qui prendrait un petit caillou lisse pour aller abattre un géant en armure ? Qui, pour prendre une ville, va en faire le tour en silence, au lieu de venir poser un siège, des catapultes, etc. Les méthodes de Dieu ne sont pas nos méthodes. Et le but de ces méthodes, justement déjà, c'est de se détacher des méthodes humaines et de montrer la toute-puissance de Dieu, pour que la gloire ne revienne pas au génie stratégique de Josué qui a réussi à prendre la ville de Jéricho parce qu'il était plus malin que les autres. On peut penser à Ulysse et à son fameux cheval de Troie, et qui est compté encore des siècles après. Quel génie stratégique ? Non. Dieu ne veut pas que la gloire retombe sur les hommes, mais Dieu veut montrer sa toute-puissance. Et il veut, comme on l'a chanté tout à l'heure, que la gloire lui revienne. Les méthodes de Dieu ne sont pas nos méthodes. Et les méthodes de Dieu demande un acte de foi. Si je dis à quelqu'un « tu peux casser ce rocher en le frappant avec ce marteau », il lui faudra pas la même foi que si je lui dis « tu peux casser ce rocher en lui demandant de se casser ». Nous, on a envie de faire comme on a l'habitude, parce que c'est rassurant. Si on me demande de briser quelque chose, je sais comment le faire. Et si on me demande de faire autrement, est-ce que j'ai la foi pour le faire autrement ? Si ça a du sens pour moi, si ça a une certaine logique humaine, oui, pourquoi pas. Mais si ça défie toutes les logiques humaines, est-ce que j'aurai la foi de le faire ? Est-ce que si, comme un certain Abraham, je n'avais qu'un seul enfant, j'aurais la foi d'aller le sacrifier si on me le demandait ? Quelle logique est cela ? Dieu, tu m'as promis une postérité énorme. J'en ai qu'un déjà, je râle pas. Mais en plus, tu me l'enlèves. Où sont tes promesses ? Quelle logique ! On ne comprend pas forcément certains passages de la Bible parce qu'on ne les lit pas avec les yeux de Dieu. Mais comme c'est écrit aussi, l'Éternel regarde à ce qui frappe le cœur. Mais l'homme, c'est pas toujours ça. Ces méthodes ne sont pas nos méthodes. Et évidemment, ça nous demande plus de foi. Si Dieu nous disait « Je vais te rendre riche par ton travail », ça nous paraîtrait logique et humain. Mais si Dieu nous disait « Va à tel endroit et tu seras riche », est-ce qu'on le ferait ? Pensez à Naaman qui attendait un remède, peut-être une pommade à appliquer, peut-être une plante à prendre, et on lui dit « Va te laver ». Certainement, il se lavait tous les jours. On lui dit simplement « va te laver ». Dieu nous parle et nous demande des choses et on passe souvent à côté parce que ça nous paraît pas cohérent, ça nous paraît pas logique. Parce qu'on a trop l'habitude de ce monde qui veut tout expliquer, tout justifier, tout comprendre. Regardez ne serait-ce que le Big Bang, la création, l'évolution, toutes ces choses-là. Le monde veut expliquer. Il faut que la science ait une explication. Si la Terre s'est formée, c'est parce qu'il y avait ça, ça a explosé, ça a donné ci et ça. Et on remonte toujours et on peut dire, oui, mais alors, d'accord, le Big Bang, ok. Mais d'où vient cette masse extraordinaire qui a explosé? Qui l'a placée là? Et l'homme veut tout expliquer, même l'inexplicable. Si je prends maintenant le deuxième passage, Joas, pourquoi lui? On lui dit, tu ne frappes pas assez. Lui, il a fait confiance à Dieu. Il fait tout ce qu'Élisée lui demande. Élisée lui dit, vas-y, prends l'arc, tire par là et tire par là. Frappe, il frappe. Il fait ce que Dieu lui demande. Quel est son problème? Quelle est l'erreur? Il a frappé 3 fois. Est-ce que Élisée lui a dit, frappe 5 fois? Est-ce qu'il a désobéi? Qu'est-ce qu'on peut reprocher à Joas? Contrairement à Moïse qui a légèrement déformé ce que Dieu avait annoncé, a frappé au lieu de parler, et Joas, on lui dit frappe, il frappe. Mais alors pourquoi Élisée s'irrite contre lui? La Bible nous dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Est-ce que nous demandons? Est-ce que nous demandons assez? Parce que le problème de Joas, c'est pas de n'avoir pas frappé, c'est de n'avoir pas frappé assez. Est-ce que vous vous retrouvez parfois dans cette situation-là, où vous êtes invité chez des gens, et puis on vous propose des choses, mais vous refusez par politesse, alors que vous en avez envie? Il y a un gâteau excellent qui a été fait, vous en avez déjà pris 2 parts, vous dites, je vais pas en prendre 3, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Mais vous en avez envie. Ça vous est déjà arrivé? Oui. Et vous allez dire quoi? Oh non, merci, ça va. Vous vous privez parce que c'est poli, c'est la bienséance. Même si c'est très bon, on va pas dévorer la moitié du gâteau qui a été fait. Est-ce qu'on n'est pas comme ça un petit peu aussi avec Dieu? Est-ce que parfois on se dit, oh non Seigneur, j'ai déjà beaucoup. Vous imaginez Salomon, Dieu lui dit, demande-moi quelque chose. Non, non, ça va, merci. Ah, je suis déjà roi quand même, c'est bien. C'est pas mal. C'était pas gagné d'être roi pour Salomon. Il y avait pas mal d'autres frères qui avaient les dents un peu longues et qui voulaient ce poste. C'était pas le premier-né de David. C'était pas en plus la femme la plus noble de David. C'était une femme avec qui il avait commis l'adultère. Il avait rien pour être roi, si ce n'est la promesse que David lui avait faite. Et Dieu vient lui demander encore qu'est-ce qu'il veut en plus. Il aurait pu dire, mais je suis roi, qu'est-ce qu'il me faut de plus? Vous voudriez quoi de plus? Vous avez le pouvoir, la richesse, tout un peuple qui vous obéit, un Dieu qui vous protège, vous voulez quoi de plus? Contrairement à David, il a eu la paix pendant de nombreuses années, il a pu construire un temple magnifique pour Dieu. Que vouloir de plus? Il aurait pu se dire, Seigneur, c'est bon, tu m'as déjà trop donné. Mais non, Salomon a demandé. L'ambition, d'un point de vue humain, c'est pas forcément bon. Parce que souvent, l'ambition peut nous pousser à faire des choses un peu contraires à ce que la parole nous dit. Il faut avoir de l'ambition, il faut avoir envie, évidemment. Il faut pas se dire, j'ai eu mon bac, ça me suffit, c'est bon. On peut se dire, non, j'ai envie de faire des études, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de faire tel ou tel travail. C'est une bonne ambition. L'ambition au sens humain, de je veux être le premier, quitte à écraser tous ceux qui seront sur ma route, ce n'est pas forcément une bonne forme d'ambition. Mais est-ce qu'on a de l'ambition en tant que chrétien? Salomon a demandé à Dieu. Il ne s'est pas contenté de ce petit acte poli. Oh, mais j'ai déjà eu beaucoup, merci. Pas une part de plus, ça ira. Pensez à Élisée. Élisée vient après Élie. Élie est un des plus grands prophètes. Élie, c'est pas n'importe qui. Et au moment où Élie part, que demande Élisée? Est-ce qu'Élisée dit à Élie, je veux la même chose que ce que tu as eu? Est-ce que vous vous souvenez ce qu'il a demandé à Élisée? Il a demandé une double part. Élie était déjà là, au niveau des prophètes. C'est pas n'importe qui. Et il a déjà fait des choses extraordinaires. Je veux dire, c'est pas n'importe qui dans la Bible fait pleuvoir le feu du ciel comme ça. C'est pas n'importe qui peut se retrouver seul face à tout un peuple et face à un roi et une reine hostile et continuer de défendre son Dieu et de dire non. Élisée vient après. C'est son serviteur, son successeur, son disciple. Mais Élisée ne se contente pas de dire « Si j'arrive un peu à faire ce que toi tu as prévu, ça sera déjà bien. » Élisée a de l'ambition. Je ne veux pas ce que toi tu as eu, je veux une double part. J'en veux deux fois plus. Comme on a entendu hein, dans un film célèbre, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et demander plus, c'est pas juste recevoir plus. Ça signifie aussi, quelque part, plus de responsabilités, plus de choses à faire, plus de services pour Dieu. On peut pas demander à Dieu, donne-nous ton Saint-Esprit et puis le garder précieusement pour soi, le cajoler dans un coin, notre précieux Saint-Esprit. Non. Si Dieu nous donne son Saint-Esprit, si Dieu nous donne des dons, c'est pour qu'on les utilise. Si Dieu vous donne tel ou tel don et que vous le gardez pour vous, je vous invite à relire la parabole des talents. Celui qui a gardé dans un coin son talent et celui à qui on a dit « Tu n'es pas un bon et un fidèle serviteur. » Alors la Bible nous dit « Demandez et l'on vous donnera. » Et dans 1 Corinthiens 12, « Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don des miracles, tous ont-ils le don des guérisons, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils ? Aspirez aux dons les meilleurs. » Voilà ce qui nous est dit. Je vous laisserai lire l'entièreté du message de 1 Corinthiens, mais ces quelques mots, aspirer aux dons les meilleurs. On doit avoir une certaine ambition en tant que chrétien. On doit courir comme pour remporter la course. Il ne s'agit pas de se dire « Oh, je ralentis un peu, je vais laisser mes concurrents revenir. » Il ne s'agit pas d'avoir du fair play. Il ne s'agit pas de se dire « Oh, lui, il veut tellement remporter la course. » Je suis un bon chrétien, je vais le laisser remporter la course. Non. Dieu nous demande de courir comme pour remporter la course. Dieu nous demande d'aspirer aux dons les meilleurs. Dieu nous demande de demander et de recevoir. Et Dieu ne nous demande de ne pas se contenter forcément de ce qu'on a ou de ce qu'on pense avoir, mais de chercher davantage. Élisée a demandé le double de l'esprit d'Élie. Salomon a demandé la sagesse pour diriger le peuple que Dieu lui avait confié. Beaucoup d'autres ont demandé la délivrance, la guérison, des tas de choses. Mais ça demande de la foi aussi de demander. Il ne faut pas demander en disant « Bon, de toute façon, c'est foutu. Hein. Je vais demander quand même. Mais bon, c'est pas grave. Si je l'ai pas, je ferai avec. » Il s'agit de demander comme si on avait déjà obtenu, de demander en ayant la foi que ce que Dieu va faire, il va le faire. À aucun moment, Élisée se dit « Je demande peut-être trop, peut-être que je ne l'aurai pas. » Dans Jean, il est écrit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » C'est un beau passage. Hein. Mais on retient souvent « Demandez et ça vous sera accordé. » Moi, en ce moment, j'aimerais bien une nouvelle voiture. Ah ah. J'aimerais bien une maison plus grande, avec un jardin, une piscine. Demandons. Et pourquoi pas ? Peut-être que Dieu répondra à ma prière, mais pas parce que je l'ai demandé. Jean dit bien « Si, si vous demeurez en moi. » Et que mes paroles demeurent en vous. Si le Saint-Esprit est en vous, et si le Saint-Esprit, pour le besoin de son service, a besoin que vous ayez une nouvelle voiture pour aller à droite et à gauche, parler de Dieu et de sa parole, alors il m'en accordera une, aucun problème. Mais il ne s'agit pas de m'en accorder une pour que je puisse, par fainéantise, aller travailler en voiture plutôt que d'y aller à pied. Ce n'est pas là le but. Quand on demande et qu'on ne voit pas les choses accordées, est-ce qu'on se dit « j'ai manqué de foi » ou est-ce qu'on dit quand même « Dieu est difficile hein. » J'ai prié pour la guérison pendant des années et je suis toujours malade. Bon, il fait un peu ce qu'il veut, Dieu. Et on oublie que peut-être si on ne l'a pas eu, c'est qu'on ne l'a pas demandé avec la foi ou de la bonne façon. Ici, on peut dire que Moïse a manqué de foi. Parce qu'au lieu de parler à ce rocher et de laisser ce miracle s'accomplir, il a préféré le frapper plusieurs fois. On peut penser que Joas a manqué de foi, a manqué d'ambition, et s'est dit « bon, j'ai frappé 3 fois, c'est bon ». Au lieu de, comme un Salomon ou un Élisée, de ne pas hésiter à demander plus. On peut dire aussi qu'on manque de foi parce qu'on n'aspire pas aux dons les meilleurs. Parce qu'on ne cherche pas, forcément, à demander tout ce qu'il nous faut pour servir Dieu correctement. Si un maître envoie un ouvrier ramasser le blé dans un champ et lui donne aucun outil, comment va faire l'ouvrier ? Eh bien, certains ouvriers vont aller dans ce champ et vont se dire « bon, ben, je vais pas déranger mon maître ». Et va faire avec ses mains et va prendre grain par grain. Alors certes, il va travailler. Ça va avancer à un rythme plutôt lent. Et à la fin de la journée, il aura ramené du grain. Mais s'il va dire à son maître « il me faut ça, ça, ça et ça, et tu vas voir en 2 jours, le champ c'est fini. » Et que son maître lui accorde. Est-ce que la moisson ne sera pas plus grande ? Il ne faut pas hésiter à demander à notre Dieu. Parce qu'on ne demande pas pour notre propre plaisir, on ne demande pas selon une logique humaine, mais on demande pour servir notre Dieu. Dieu nous a placés sur cette terre et nous a dit, voilà, il y a peu d'ouvriers, la moisson est grande. Si nous, on se contente de faire les choses à la main, grain par grain, eh bien, notre moisson sera un petit peu plus réduite. Mais si on demande à Dieu les bons outils, et les bons outils, c'est quoi ? Seigneur, augmente notre foi, envoie-nous ton Saint-Esprit, donne-nous les dons nécessaires. Les apôtres guérissaient parfois. Est-ce que j'ai moi-même le don de guérison ? Non. Mais si Dieu demain a besoin de mes mains pour guérir quelqu'un, je sais qu'il le fera. Les apôtres prêchaient et ont annoncé des choses au point que 5000 se sont convertis en une journée. Je ne suis pas arrivé à ce chiffre-là encore, mais je persévère. Amen. Je pense que pour ces apôtres-là, ce n'était pas dur de demander. Alors on pourrait dire c'est facile pour eux, ils ont vu tellement de choses. Un Dieu qui guérit, qui ressuscite, un Dieu qui multiplie le pain, un Dieu qui marche sur l'eau, qui arrête la tempête. Forcément, quand on a vu tout ça derrière, on ne peut que demander et on sait qu'on va être exaucé. On croit au miracle. Mais Moïse, il a vu quoi ? Il a vu quoi, Moïse ? On pourrait dire un buisson qui brûle sans se consumer. C'est déjà pas mal, hein. Vous en avez vu, vous ? Non. Mais ça s'est pas arrêté là. Il a vu les 10 plaies d'Égypte. Des bâtons qui se transforment en serpents. La nuit en plein jour. L'eau qui se transforme en sang. Et j'en passe. La mort qui passe sur tout un pays. Un peuple puissant qui ne peut rien face juste à l'ange de l'Éternel. La mer qui s'ouvre devant lui. Une colonne de feu qui marche devant le peuple pendant la nuit, une colonne de nuée pendant le jour. La nourriture qui tombe du ciel. Moïse, il a tout vu. Et pourtant, derrière Moïse, il frappe le rocher. On peut dire la punition est quand même un peu balèze. Ne pas entrer dans la terre promise, juste se contenter de la voir. Elle est à la hauteur de la faute aussi, parce que en tant que berger, on est puni aussi plus durement. Mais déjà, on voit quand même l'amour de Dieu dans ce passage, parce que Moïse a frappé le rocher, et Dieu a quand même envoyé l'eau. Il n'a pas humilié son serviteur devant le peuple. Déjà qu'à plusieurs reprises, il voulait le faire mourir et prendre sa place, Dieu a quand même protégé son serviteur, et a permis que même s'il faisait pas les choses de la bonne façon, il a exaucé. La parole nous dit aussi, hein, c'est pareil, que si on annonce la parole avec de mauvaises intentions, qu'importe, la parole est annoncée quand même, même si on le fait pas de la bonne façon. Dieu a quand même aimé son serviteur. Il l'a sanctionné parce que devant le peuple, il a privé le peuple d'un miracle encore plus extraordinaire. Et en étant son berger et son conducteur, sa faute implique aussi, quelque part, tout le peuple. On sait que les bergers sont jugés plus durement. Mais Dieu a quand même aimé Moïse, lui a permis de voir la terre promise, lui a permis de vivre une vie quand même pleine de nombreuses années. Dieu a permis que l'eau coule quand même malgré la désobéissance de Moïse. Et Moïse fait partie aussi de ces gens dont on ne sait pas où est le sépulcre, parce qu'il est mort avec Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui l'a enterré. Il a connu quand même des choses extraordinaires. Mais malgré toutes ces choses extraordinaires qu'il a pu voir, il a aussi manqué de foi, à ce moment-là notamment. Et nous, on se place où ? Êtes-vous des Salomon, des Élisée ? Êtes-vous des Joas ? Et encore, je pense qu'on peut être pire que Joas. Joas a frappé 3 fois. Il y en a plein qui auraient dit « Oh non, je ne suis pas digne de frapper ». Envoie quelqu'un d'autre, comme disait Moïse. La Bible dit dans Proverbes que un peuple périt faute de vision, mais il est heureux s'il garde la parole. Si nous n'avons pas de vision, si nous n'avons pas de projet, si nous ne regardons pas devant nous comme a pu le faire Salomon en disant « Voilà la tâche qui est devant moi, j'ai besoin de ça pour l'accomplir correctement ». On va périr, tout simplement. Si en tant qu'ouvrier, nous décidons d'aller moissonner ce champ grain par grain à la main, on ne va pas faire grand-chose. Dieu nous appelle à bien plus. Et Dieu nous appelle, et nous le dit plusieurs fois dans la Bible, « Demandez ». Mais comme dit ce proverbe, « Heureux s'il garde la parole », comme disait Jean tout à l'heure, « Si vous demeurez en moi », il ne s'agit pas de se dire « on est chrétien, on peut demander ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut ». D'abord, comme c'est écrit, « cherchons d'abord le royaume de Dieu ». Toutes ces choses vous seront données en plus. Le détail, ça viendra après. Cherchons d'abord l'obéissance. L'obéissance à notre Seigneur. Demandons-lui de nous envoyer son Saint-Esprit, d'augmenter notre foi. Demandons-lui de bannir nos raisonnements et nos pensées humaines et de nous aider à voir ce monde avec ses yeux à lui, à ne pas passer près de mon prochain en le jugeant parce que il est en train de se droguer. Je vais détourner le regard, je vais pas me salir, tout comme ces religieux qui passaient près du bon samaritain. Demandons à Dieu de nous confier ses yeux qui voient au cœur, ses yeux qui voient avec amour. Dans 2 Corinthiens, il est écrit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Comment recevoir? Comment renverser les raisonnements de ce monde? Il faut amener les pensées captives à l'obéissance de Christ. Il faut commencer déjà soi-même par chercher à obéir à Christ. Et chercher ensuite à amener le plus grand nombre. Il y a peu d'ouvriers, mais la moisson est grande. Que dit la suite de ce passage? Vous le savez? Priez le maître de la moisson d'envoyer plus d'ouvriers. Est-ce que nous prions pour demander plus de moyens? Ou est-ce que parfois, par bienséance, on se dit « Non, je vais pas déranger mon maître ». Il y a quand même d'autres choses à faire. Il ne va pas m'écouter moi, je suis dans une petite ville, à Mâcon, en Bourgogne. C'est pas un lieu très important. Il n'y a pas de grandes personnes qui passent à Mâcon. De temps en temps, on a un ministre et on est tout content. Mais c'est pas la ville la plus importante du pays le plus important. Et moi-même, je suis qui ? Oh, un membre d'une église. Une petite église. Et parmi cette église, je suis pas le plus important non plus. Pourquoi irais-je demander ? Qui était David ? Était-ce que le frère aîné d'une famille puissante et célèbre ? C'était le dernier d'une longue fratrie, un berger. Une personne qui ne valait rien aux yeux de ce monde. Comme Dieu dit dans sa parole, il a choisi les choses folles de ce monde, les choses faibles de ce monde. Il nous a choisi, nous. Mais dans 1 Corinthiens, et je finirai par ça, car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Merci Seigneur pour tout ce que tu as mis dans ta parole, pour notre enseignement, et apprends-nous. Apprends-nous à demander avec foi et avec conviction, Seigneur, à demander ce qu'il convient pour ton service. En effet, Seigneur, la moisson est grande. Nous nous sentons petits face à l'immensité de ce monde. Alors Seigneur, nous te prions ce matin de venir nous aider, de nous exaucer, de nous montrer par ton Saint-Esprit quoi et comment demander. Oui, Seigneur, nous sommes peut-être une petite église dans une petite ville. Mais nous voulons te demander, Seigneur, de nous aider à rayonner dans cette ville, de nous aider à propager ta parole, ton message. Aide-nous à demeurer en toi, à demeurer dans l'obéissance à ta parole. À ne pas chercher la gloire de ce monde ou les raisonnements de ce monde, mais à chercher simplement à faire ta volonté. Merci parce que tu as choisi des personnes qui n'étaient pas grand-chose dans la Bible pour en faire des personnages extraordinaires. Et merci parce que tu nous as choisis. Tu m'as choisi, Seigneur. Merci pour tous les dons que tu places en nous. Et à nous à être plus ambitieux, à aspirer à d'autres et à de meilleurs dons pour accomplir encore plus efficacement ton service. Amen.